BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés jusqu'à 18h, l'émission qui tente de faire bourgeonner tous vos placements grâce au marché et à la bourse. Bienvenue à tous, on avance au rythme de cette séance. Aude Kersulec nous accompagne depuis la tour Euronext. Rebonsoir Aude, c'est vous qui dans 31 minutes nous ferez vivre la clôture des marchés en direct. Comment ça se présente tout à l'heure?
On est toujours dans le vert en Europe. Le CAC 40 qui monte de 0,34 points, toujours bien au-dessus des 8000 points, tout juste au-dessous des 8050 points. Mais attention, on pensait que du côté de Wall Street, ça se reprenait quand même bien à l'ouverture à 15h30. Et puis finalement, le Nasdaq avait ouvert quand même bien dans le vert. Il perd du terrain maintenant. Il est tout juste à l'équilibre après une heure et demie d'échange. Donc attention à ce qui peut se passer de l'autre côté de l'Atlantique.
Effectivement. Alors cette semaine sera intéressante. On a comme un air de printemps, tout début de semaine, un peu plus de douceur sur les indices. Après le stress de la semaine dernière, on a un peu moins d'inquiétude aujourd'hui sur la situation géopolitique dans la mesure où l'Iran semble vouloir, on va dire, désamorcer la logique d'escalade avec Israël, en tout cas minimiser l'impact et l'importance des frappes d'Israël il y a quelques jours sur son territoire. Ça tente à rassurer le marché. On a le pétrole qui se détend un petit peu. Enfin, combien de temps cela va-t-il durer? Et puis du côté du marché, mais vraiment dans ses mécaniques propres, des grands enjeux à suivre et à ne pas rater cette semaine, notamment les publications d'entreprises qui vont se multiplier. Avalanche de résultats, l'avalanche de printemps traditionnelle sur les marchés. On aura 21 entreprises rien que sur le CAC qui vont publier d'ici la fin de semaine. 21 publications rien que sur le CAC 40. Plusieurs des 7 magnifiques aussi vont annoncer leurs résultats dans les prochains jours. On va vous apporter des clés d'anticipation. Et puis aussi au menu de cette semaine dense qui se présente, la note française, la dégradation possible. On verra de la note française ou de la perspective de la note française. Fitch et Moody's annonceront leur sentence. Leur décision, ce sera vendredi. Ben, on va se demander, nous, si quelque part, il ne faudrait pas souhaiter une dégradation de la perspective de la note française, voire de la note française pour réveiller l'esprit de responsabilité. On va en parler aussi dans ce club qui va nous ouvrir et nous amener jusqu'à la clôture des marchés à 17h35. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et on évoquait aussi tout à l'heure la campagne présidentielle américaine. Donald Trump a subi un gros revers à la Chambre des représentants américaine puisque la Chambre des représentants a voté en faveur d'un important paquet d'aides supplémentaires à l'Ukraine. C'était pas la volonté de Donald Trump, là, c'est un gros revers pour lui. Mais dans les sondages, Donald Trump continue de gagner du terrain chez les jeunes, figurez-vous. C'est John Plassard qui nous en parlait tout à l'heure à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté ce moment de direct, vous pouvez le retrouver en replay ou en podcast sur notre application BFM Bourse. Oui. Il se trouve que, historiquement, les jeunes ont toujours eu tendance à privilégier le Parti démocrate, mais que cela est en train de se retourner. John Plassard, donc en replay, n'hésitez pas à consulter les replays et podcasts de BFM Bourse. Nos coéquipiers du club, pour la suite, pour mesurer ce qui nous attend sur les marchés, ils sont là. Xavier de Buren, bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue au TA Capital. Et Valentine Hénouz, re-bonsoir Valentine.
Bonsoir.
En fil rouge avec nous cet après-midi pour Amundi Institute. Ravi de vous retrouver tous les deux. On est au début, on commence à avancer maintenant dans la saison de publication, mais là, ça s'accélère vraiment cette semaine en Europe. Comment sentez-vous? On va parler des publications hein, et de celles sur lesquelles, les entreprises pour lesquelles vous êtes plus optimiste et celles sur lesquelles vous êtes plus inquiet à l'orée de ces publications. Mais comment sentez-vous l'état global du marché maintenant qu'on entre dans le dur, Xavier?
Alors effectivement, vous l'avez dit, on rentre vraiment dans le dur sur les publications parce que pour les deux prochaines semaines, on aura aussi bien aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs, puisque 70% des entreprises du S&P 500 vont publier dans les deux prochaines semaines. Et en Europe, sur le Stoxx 600, c'est quasiment un tiers de ces entreprises qui vont publier. Alors ces publications, elles sont importantes à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'on va avoir un exercice, un trimestre à peu près normalisé. Notamment, bon, on l'a vu, hein, l'inflation qui a continué de baisser. Donc on vient sur des niveaux de prix pour les entreprises qui sont un peu normalisées. On va sans doute voir d'ailleurs moins de pricing power de la part des entreprises, parce que c'est vrai que ces derniers trimestres, ils ont pas mal surfé sur le pricing power. Elles avaient cette capacité à pouvoir augmenter les prix trimestre après trimestre. Et évidemment, la cause, c'était pour dire qu'on va compenser l'inflation. Maintenant que l'inflation s'est normalisée, on va voir ceux qui ont réellement du pricing power et ceux qui n'en ont pas ou qui en ont perdu. Ça, c'est le premier élément. Ce qui va être important également, c'est qu'on a aussi une situation qui s'est bien normalisée du côté des contraintes de supply chain, de logistique, etc. Donc on a un exercice qui va être à peu près normalisé. On a vu aussi des conditions de financement qui se sont améliorées également. Donc On a une situation qui se normalise sur pas mal de points, donc ça va être intéressant de voir comment les entreprises s'en sortent dans cet environnement à peu près normal. Ce qui va être important de regarder aussi, c'est le discours des sociétés. Effectivement, on va avoir des publications, c'est sur un trimestre, c'est le début de l'année, oui. En fonction des, industries, il peut y avoir un peu de cyclicité tout au long de l'année, donc... Voilà, mais ce qui va être important, c'est vraiment le discours des entreprises, savoir si elles vont confirmer ou même donner des objectifs pour cette année, et comment est-ce qu'elles voient l'avenir. Et puis le point qui sera évidemment très important à surveiller, c'est les carnets de commandes. Parce que là aussi, on a des nouvelles prises de commandes, notamment sur la partie industrielle, parce qu'on voit d'ailleurs qu'on a touché un point bas sur l'activité manufacturière en Europe, et on voit que ça commence tout doucement à repartir, et ça, c'est un élément qu'il faudra surveiller, sur lequel on pourra avoir plus d'indications sur les commentaires de ces sociétés.
Et est-ce que vous sentez que cette saison de publication pourrait enfin permettre au marché de sortir de cette incroyable distorsion, à savoir certains secteurs très chèrement valorisés, et puis tout le reste du marché, la majorité silencieuse du marché, beaucoup moins bien valorisé? Est-ce qu'on pourrait voir un rapprochement des valorisations à l'occasion, une détente de l'élastique de valorisation, en quelque sorte, à l'occasion de cette saison de publication?
Il faut l'espérer, hein. Il faut que le marché se reconcentre sur la croissance des bénéfices par action. Il y a une étude sur très long terme qui explique que 80% de la performance des marchés actions s'explique par, d'un côté, les croissances bénéficiaires, c'est-à-dire la croissance des bénéfices par action, et la génération de cash. Et 20% s'explique par une hausse des multiples du marché ou du secteur. Ces dernières années, on est un peu passé de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est plutôt la hausse des multiples qui a conduit la hausse forte des indices, et vous l'avez évoqué, on l'évoquera certainement sur notamment le secteur tech américain qui a vraiment poussé la performance du marché. Et là, ce serait un élément favorable que les investisseurs se reconcentrent pour une fois aux fondamentaux et sur la croissance des bénéfices par action qui sont attendus pour cette année à 10% de croissance sur les États-Unis et 4% de croissance des bénéfices par action en Europe.
Xavier, on se parle franchement. Alors, on va vous soumettre la question du jour, celle qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Vous pouvez vous tous vous y abonner. On le disait, énormément de publications là qui arrivent, 21 rien que sur le CAC 40, énormément aussi cette semaine à Wall Street. Ça fait beaucoup là, en à peine quelques jours. Et la question, et vous, arriverez-vous à tout suivre? Oui ou non? Alors, dans un instant, on vous fera part des réponses de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui ou non, arriverez-vous à tout suivre au milieu de toutes ces publications? Mais je vous la pose cette question, Xavier. Vous êtes un professionnel de marché. Il y en a beaucoup là, d'un coup. Bah, jeudi notamment, il y aura énormément d'entreprises du CAC 40 qui vont annoncer leurs résultats. Le même jour, il y a quand même 365 jours dans l'année, et souvent elles annoncent en même temps, le même jour, leurs résultats. Est-ce que c'est facile à gérer quand on est un professionnel, qu'on doit tout éplucher comme ça au service de ses clients?
Non, bien sûr que non, c'est pas facile. Il faut se concentrer déjà, la première choix à faire, c'est de se concentrer sur les valeurs qu'on détient dans les portefeuilles ou dans nos fonds, hein, pour évidemment pour le suivi. Et puis si on a des choses qui sont qui sortent un petit peu du lot sur des entreprises qui auraient avec des publications qui peuvent être attendues et analyser tout ça, on va se laisser le temps de regarder ça en détail. Il y a les bureaux de recherche et les analystes qui peuvent nous aider aussi là-dessus, mais effectivement.
Vous espérez que l'IA un jour vous aidera, voilà, quand il y a comme ça sur une seule journée des dizaines de publications, est-ce que l'IA un jour viendra secourir les stock pickers pour parvenir à tout suivre quand même ça?
Alors peut-être, ouais. Et puis on a des outils qui nous aident, hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de providers de données qui peuvent nous faciliter un petit peu le travail, mais le problème c'est que c'est des contraintes de l'AMF qui obligent les entreprises à publier dans un certain délai après la clôture des comptes, etc. Donc tout le monde se retrouve là, ils veulent pas publier le vendredi soir parce que tout le monde est en week-end. Effectivement, le mercredi, jeudi, c'est les jours qui sont très recherchés, ouais.
68% d'entre vous avaient voté « Non, je n'arriverai pas à tout suivre cette semaine, il y a trop de publications, 68%. » 32% quand même pensent arriver à tout suivre. Pas mal, nos auditeurs étaient.
Ils sont peut-être investis sur deux ou trois titres.
Oui, qui sait, Valentine.
Après, ça dépend ce qu'on appelle tout suivre, en fait.
Ah oui, tout.
Et ça dépend comment on suit une donnée, ou est-ce qu'on suit les choses de façon agrégée, ou est-ce qu'on se contente de regarder quelques ratios, ou une analyse. C'est rien qu'en écoutant j'étais analyste avant, donc rien que quand on écoutait la publication, l'AG, etc., ça prend déjà un certain temps.
On a une auditrice, elle est très sympa, elle nous a laissé un commentaire en lui disant « Oui, moi je fais partie de ceux qui pensent arriver continuez à tout suivre. Grâce à vous, parce que je vous suis en replay, en podcast, gentil. Et grâce à tout l'univers de vos intervenants qui ont chacun leur vision, leur regard, parviennent à finalement apporter des points de vue complémentaires. On parvient à avoir une vision panoramique du marché. C'est Sarah qui nous a laissé ce gentil message. On la salue. Merci à elle. Et n'hésitez pas, comme elle, à nous être fidèles aussi en replay et en podcast. Vous regardez tout ça de loin. Ça vous fait presque sourire, tout ça.
Non.
Difficulté dans laquelle vont être les gérants et les analystes cette semaine avec ces très nombreuses publications. Vous n'êtes pas gérante. Vous regardez tout ça très loin. Vous regardez plutôt le marché de taux. Et vous vous dites donc que ce marché, il va beaucoup réagir aux publications. Là, ce sont les entreprises qui vont faire la pluie et le beau temps sur le marché, où ça restera, malgré tout, envers et contre tout, la politique monétaire et l'évolution des taux obligataires. Ça restera le marché obligataire, le pilote des marchés actions dans les prochains jours, même si les entreprises vont publier, Valentine.
Alors, en toile de fond, je reste persuadée qu'on a l'environnement de croissance et de politique monétaire. Et qu'aujourd'hui, on reste dans un environnement qui est favorable aux actifs risqués, parce qu'on continue d'avoir des surprises positives sur la croissance. Aux États-Unis, évidemment, parce qu'on révise à la hausse de façon formidable la croissance depuis le début de l'année, mais également en Europe, la croissance économique surprend positivement. Et l'environnement de politique.
Ouais, surprend.
Les données économiques sont supérieures aux attentes. Surprend. Mais on ne révise absolument pas la croissance comme aux États-Unis. Mais non, mais on aurait pu décevoir.
Oui, on aurait pu décevoir.
Et si on regarde la consommation, la service, ça tient. Voilà.
On est d'accord.
Ça tient.
Oui.
Après, on a, pour moi, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est qu'on a une inflation, surtout aux États-Unis, qui est beaucoup plus collante que ce à quoi on s'attendait. Mais on est toujours, comme on disait juste avant, on reste toujours dans une dynamique où on anticipe que la Fed va baisser ses taux cette année. Et ça reste, ce démarrage du cycle de baisse de taux reste pour moi un soutien important aux actifs.
Les anticipations de marché sont en train de tourner là, comme une girouette.
On est sur 1,2, donc on est toujours. Oui. Et puis on n'est pas sur un scénario, on est sur un scénario où ils anticipent. Enfin, on est toujours dans un scénario.
Il anticipe maximum 2 baisses de taux et encore d'ici la fin.
Le marché, il n'est pas sur un scénario où la Fed va monter ses taux. Le marché, où il n'est pas sur un scénario où il y a un désaccrage des anticipations d'inflation. Si on regarde le prix du pétrole, il a fortement augmenté depuis le début de l'année, mais la hausse, elle reste contenue, malgré tout ce risque géopolitique. Donc on n'a pas, pour moi encore, on n'a pas basculé dans un scénario.
Je vais vous dire, pour moi le marché, il est en train de sous-estimer la capacité de la Fed à ne pas baisser ses taux.
Ça va être un grand challenge, mais nous chez Amundi, on est toujours sur un scénario où, où la Fed va baisser ses taux, mais j'avoue que c'est quand même un risque que je suis de très très près, et notamment maintenant, si on va regarder, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est la prochaine étape, et pour moi, à surveiller sur les publications d'entreprises, qu'est-ce qui va se passer sur les marges, ça c'est très très important, est-ce que les entreprises vont réussir ou pas à tenir leurs marges, et autre chose que les analystes actions ne regardent pas forcément, mais ce qui est beaucoup plus regardé par les analystes taux, tous les analystes crédits, c'est qu'est-ce qui va se passer du côté refinancement. Et ça, c'est un risque plutôt fin 2024, début 2025, qui pourrait monter en puissance si la Fed doit maintenir ses taux plus élevés plus longtemps. Parce que si on regarde les niveaux de cash, on est aujourd'hui revenu sur les niveaux d'avant Covid. Pas une situation dangereuse, mais néanmoins, les besoins de refinancement sont plus importants et l'impact des taux plus hauts sur les entreprises, c'est une histoire de maintenant. Ce n'était absolument pas une histoire de 2023. Donc, à surveiller les marges, certes. Ça, c'est déjà très, très surveillé par les investisseurs. Mais aussi le cash et la couverture des intérêts par
les... Attention, il y a les motos qui passent là. Attention, on entre dans la dernière ligne droite de cotation. Dans moins de 20 minutes, la clôture, on la vivra ensemble en direct. Valentine Hennouz nous accompagne, Xavier de Buren également, pour continuer de mesurer le potentiel des marchés. Mais à moins de 20 minutes, on est toujours en hausse. On tient notre hausse sur le CAC 40. Elle est légère, mais elle est là. Plus 0,2%, effectivement, 6038 points. Téléperformance est en tête du CAC, plus 3%. Repli pour Schneider Electric qui recule d'1,6%. Puis aussi Alstom. Une cession de ses activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à s'appeler au marché. Alstom, qui a déjà pris 30% depuis la mi-février, continue son petit bonhomme de rebond. Ce titre Alstom gagne encore aujourd'hui 1,5%. On y reviendra plus en détail avec Aude Kersulec tout à l'heure. Elle nous appellera depuis la Tour Euronext. Xavier de Buren et Valentine Hennouz donc sont nos experts du club. Oui, bon. On espère que ça se passera mieux à la clôture quand même pour le CAC 40. Donc, le potentiel à venir, il va dépendre en partie effectivement des anticipations de baisse de taux. Vous êtes toujours confiante sur les baisses de taux de la Fed, une ou deux, Valentine, nous disiez-vous, pour cette année, même si le marché décale peu à peu.
On est toujours sur 2-3.
2-3. Ah, toujours 2-3. Donc une première baisse de taux dès le mois de juin pour Amundi.
Juillet pour Amundi.
Juillet, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'entre juin et septembre, il y a mois de juillet. Votre anticipation sur, Xavier, effectivement, le calendrier de la Réserve fédérale américaine, après les chiffres incroyables de l'activité aux États-Unis, on aura chiffre de la croissance aussi du premier trimestre, ce sera jeudi. Aux États-Unis, il sera annoncé. Votre anticipation, c'est plutôt juin, plutôt septembre ou entre les deux pour la première baisse de taux ?
C'est difficile, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera plus modeste et plus tard. Et vous l'avez dit, on commence à voir sur les anticipations 15% des gens qui se disent qu'il pourrait y avoir un statu quo de la Fed sur ses taux cette année et que ça reportera le cycle de baisse des taux à partir de 2025. Un point important, c'est qu'il est important de constater qu'on commence la corrélation négative entre le marché des taux et les marchés des actions est en train de diminuer de plus en plus.
On a une recorrélation des deux.
Exactement. Donc ça aussi, c'est un point. Et tout l'enjeu, et je pense d'ailleurs les sociétés que vous avez nommées, Alstom, etc., qui ont quand même des sociétés qui ont beaucoup souffert ces derniers mois, on voit un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Ça veut dire quoi aussi? Ça rejoint aussi ce qu'on disait en début par rapport aux valeurs très très chères, certes qui délivrent de la croissance, mais pas forcément des marges, etc. C'est que on sent que les investisseurs sont en train de revenir sur les fondamentaux, d'aller voir des sociétés finalement dont la valorisation est plus justifiable sur ces niveaux-là parce que vraiment trop dépréciée par rapport à la qualité des actifs, qu'on a des entreprises finalement qui trimestre après trimestre arrivent à délivrer de la croissance, à maintenir les marges, voire à les augmenter, à gagner des parts de marché. Et ça aujourd'hui dans la cote, c'est vrai que le marché a été un peu aveuglé par le succès incroyable des valeurs tech américaines. Et c'est l'occasion, dans un, encore une fois, moi je suis toujours très attaché à la normalisation de l'environnement, et là on a, ça se normalise, je l'ai dit, sur l'inflation, ça se normalise à peu près sur les taux, et donc voilà, ça va être important maintenant d'aller faire son marché sur des entreprises de très bonne qualité qui ont cette capacité sur leur marge à générer de la trésorerie.
Et est-ce qu'on peut illustrer justement, je sais pas, des idées d'entreprise dont vous vous dites celle-ci, elle est largement sous-valorisée et l'avenir lui sourit. À un moment, le marché va accepter la réalité. La réalité, à la fin, gagne toujours et le marché finira par la pricer.
Alors, sans citer de valeur, on peut citer deux exemples. C'est un, la dynamique de croissance des bénéfices par action en Europe par rapport aux États-Unis, elle est supérieure depuis 2021. C'est-à-dire que la croissance des bénéfices par action des entreprises européennes est supérieure à la croissance des entreprises américaines depuis 2021. Et on a une décote historique en termes de valorisation entre les marchés américains et les marchés européens. C'est-à-dire qu'en termes de PE, on est quasiment 35% de décote du marché européen par rapport au marché américain. Ça, c'est un premier exemple. Donc ça veut dire que peut-être plutôt aller en étant un peu contrariant, même si on voit que les marchés européens surperforment depuis le début de l'année. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de se dire aussi du côté des petites et moyennes capitalisations, on en parle tout le temps, mais là aussi, on a atteint des niveaux de décote qui sont historiques et qui ne sont pas justifiables quand on regarde la qualité des petites et moyennes capitalisations en termes de positionnement, de croissance des marges, de croissance du chiffre d'affaires et de génération de cash.
Alors tout le monde nous dit, les petites et moyennes valeurs, en plus elles ont une autre opportunité à saisir, à savoir les baisses de taux de la BCE, qui elles seront peut-être un peu plus nombreuses que les baisses de taux de la Fed cette année. Si les small et mines ne profitent pas des baisses de taux de la BCE, là ce sera peut-être le signal que c'est ancré, enfin leur sous-performance est amenée à durer. Si même quand les taux baissent, elles ne rattrapent pas une partie de leur retard, est-ce que là, pour le coup, vous vous direz, bah, fiche, c'est foutu, quoi. Enfin, voilà, si même avec le vent dans les voiles, le bateau n'avance pas, c'est qu'il y a un problème structurel, quoi.
Il serait, à mon avis, plus intéressant de voir si sur ce segment-là de marché, surperforme avec des taux qui stagnent, plus qu'une baisse. Ça veut dire que si ça stagne, ça veut dire que déjà, l'effet d'identification d'un segment de marché sur lequel on peut gagner de la valeur sera là. Et donc, ça veut dire que si les taux baissent, ce sera un effet accélérateur.
Ouais. Et on peut effectivement miser sur plus de baisses de taux en Europe qu'aux États-Unis en l'occurrence. Là, pour le coup, celle de juin, la première baisse de taux en juin en Europe, elle est ancrée chez vous, chez Amundi. Alors, pour la Fed, plutôt juillet, nous disiez-vous. Pour la BCE, ce serait dès le mois de juin. Valentine ?
Plutôt juillet, avec un niveau d'incertitude élevé. D'accord. Et très confiante sur la volonté de la BCE à baisser ses taux dès le mois de juin. On est sur des dynamiques qui sont très très différentes, US et zone euro. la trajectoire de l'inflation, de la baisse de l'inflation. On est beaucoup plus confiant de la trajectoire à la baisse de l'inflation sur la zone euro.
Malgré la petite réaccélération de la croissance.
Malgré, elle est très faible. je suis d'accord. non. Et puis il faut voir aussi que l'impact des taux sur l'activité de crédit en zone euro est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi un phénomène important.
Alors, il y a deux grands pays dont les taux souverains se retendent aujourd'hui. Il y a les États-Unis, toujours avec cette dynamique économique incroyable. On est à 4,63 là sur le 10 ans américain. Puis il y a la France, figurez-vous. Le 10 ans français est à 3%. Il renoue avec les 3% aujourd'hui, à quelques jours de la décision des agences de notation. Fitch et Moody's, vendredi, pourraient dégrader la note française ou la perspective de la note française. Votre pronostic là-dessus, Valentine, elles vont dégrader ou pas?
Alors, la note, non. Le risque sur la note, c'est plutôt un risque avec S&P, qui est déjà avec un outlook négatif. Et pour Moody's, c'est plutôt un risque sur la perspective. Voilà, première étape.
Et S&P, on a le temps de voir venir, ce sera le 31 mai.
Fin mai. S&P, d'accord. C'est fin mai.
Donc c'est sur S&P qu'il y a le plus de risques. Ce sera fin mai. Pour les décisions à venir vendredi, ce sera plutôt la perspective de la note qu'il faudra surveiller.
La perspective. Et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que, comme ça l'a déjà été bien évoqué, c'est que le gouvernement, certes, est confiant dans sa volonté de ramener le déficit sur les 3% d'ici 2027. Mais dans le scénario pour ramener ce déficit, il y a des perspectives de croissance du scénario qui sont quand même très, très positives. La croissance oscille entre un 4 et un 8 sur cette période. Et dans cette période, il faudrait avoir une discipline budgétaire très forte alors qu'on a une croissance faible. Donc le gouvernement va vraiment devoir se montrer très, très convaincant dans cette capacité à ramener ce déficit sur les 3%. Et la France, sortie de Covid, fait quand même partie des mauvais élèves de l'Europe, a du mal à ramener ses dépenses au niveau qu'on avait avant le Covid. Et si on regarde en termes de hausse de dette sur PIB, on fait partie quand même vraiment des mauvais élèves.
Bon, alors on verra si la perspective de la note française est dégradée ou pas. Décision vendredi, donc. Est-ce que pour les marchés, ça aura la moindre importance ?
L'impact ?
Jusqu'ici, enfin ces dernières années, en gros depuis la crise des dettes souveraines, les notes des agences de notation, les marchés choisissent de les ignorer totalement. Et c'est pas parce qu'un pays voit sa note dégradée que les investisseurs viennent moins nombreux acheter sa dette. Et là, on voit depuis le début de l'année qu'ils sont très nombreux à acheter la dette française.
Exactement, exactement. Je pense que l'impact, même avec une dégradation de la note pour S&P, sur les marchés restera modéré. La dette française est un support d'investissement très, très privilégié par les investisseurs étrangers parce que c'est un marché qui est extrêmement liquide et profond. Et surtout, on est toujours, comme on le répète tout le temps, dans cette dynamique où on anticipe que la BCE va baisser ses taux et les investisseurs veulent capturer ce rendement avant les baisses de taux de la Banque centrale. Oui. Donc on a toujours des flux positifs très très forts sur les produits de dette, que ce soit les produits de dette d'entreprise ou dette des États souverains. Donc un marché qui est par nature très attractif pour les investisseurs et on est dans un contexte où on anticipe les taux, les baisses de taux de la BCE qui rend cette dette attractive.
Et quand vous dites la France est par nature attractive pour les investisseurs, ça vient d'où ce par nature? Enfin, pourquoi la France a cette profondeur? Pourquoi par nature la France est attractive et rassure?
C'est un marché qui est très liquide. Et puis on a la chance de faire partie de la zone euro et on bénéficie aussi des fondamentaux forts de l'Allemagne. Faut pas.
Oui. Mais quelque part, on peut regretter, si les agences de notation, par exemple, ne dégradent pas la France, on pourrait le regretter en se disant, c'est dommage, parce qu'au moins une dégradation permettrait de réveiller l'esprit de responsabilité de nos dirigeants en disant, symboliquement, c'est quand même pas terrible de voir la note dégradée. Ça les obligerait, pour le coup, à aller plus loin, justement, dans des politiques
plus orthodoxes. Un peu plus de discipline. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un peu plus de discipline budgétaire au niveau de la France. Alors, c'est absolument pas...
Mais est-ce qu'on y arrivera si la note n'est pas dégradée? Est-ce qu'il faudrait passer par la case dégradation?
C'est pas forcément évident, parce qu'on voit le stress au niveau de l'Europe n'est pas fort. Et surtout qu'avoir un niveau de dette élevé, c'est absolument pas un stress à court terme, mais à moyen terme, ça veut dire quoi? Moins de capacité à investir, et ça veut dire moins de capacité aussi à réagir à des chocs extérieurs. Donc c'est vraiment important d'avoir au cours des 3 prochaines années une inflexion dans nos dépenses.
Bon, il y a déjà des efforts qui sont annoncés, 10 milliards. Exactement. Et 10 milliards, mais peut-être faudra-t-il aller plus loin. Aude nous appelle, Aude Kersulec depuis la Tour Euronext, on est à 7 minutes de la clôture. Rebonsoir Aude, comment ça se présente ce soir sur le CAC 40?
Mais bien nos gains s'amenuisent hein, quand même à fur et à mesure qu'on se rapproche de la clôture. Plus 0,17%. On était tout juste au-dessous des 8050 points. On est à 8035 pour le moment. Et vivement, hein, demain et après-demain, qu'on ait vraiment des publications au sein de notre 440 pour eh bien, rythmer un peu tout ça. Et justement, bah, qu'est-ce qu'on a à l'agenda demain? On aura quand même de gros morceaux hein, puisqu'on commencera avec le chiffre d'affaires de Renault, mais aussi après clôture, le très attendu Kering. Il y a quelques semaines, Kering qui avait dit que les ventes pour le premier trimestre pourraient baisser de 10% et même de 20% pour Gucci, hein, la moitié de ses ventes. Après cet avertissement sur chiffre d'affaires, on verra comment ça se déroule du coup pour Kering. Et puis du côté des États-Unis, il y aura aussi les très très gros morceaux puisqu'on aura General Motors, Spotify ou encore bien sûr Tesla.
Quelle grosse semaine qui nous attend effectivement. Vous tous qui nous suivez, vous avez peut-être d'ailleurs des questions sur vos portefeuilles, comment les ajuster en fonction des publications. Vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on y répond. Dans Culture Bourse, chaque jour, 15h50, Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent. Vous pouvez nous adresser vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans régulièrement. Hein. Puis aussi à l'adresse BFM Bourse, à bfmbusiness.fr. 17h29, on entre dans la Data Room. C'est votre hub de data. Chaque soir, juste avant la clôture, des data rares et précieuses, rien que pour vous aider à faire la différence en bourse. Valentine, Xavier, êtes-vous prêts ?
Oui. Oui.
C'est ici et maintenant que tout se joue. Vous avez chacun une minute trente pour nous présenter une data forte. Xavier, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, 160 milliards d'euros.
160 milliards de dollars. Ouais, alors 160 milliards de dollars, c'est les dépenses d'investissement réalisées par les 7 magnifiques aux États-Unis en 2023. Donc le montant en valeur absolue est absolument colossal. Ça illustre, je pense, la très forte dynamique d'innovation, de développement, afin de garder l'avance technologique de ces entreprises hein, et vraiment distancer le monde entier, consolider leur part de marché. Donc c'est vraiment des montants qui sont extrêmement élevés. Et à titre de comparaison, 160 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière de Total. C'est-à-dire que chaque année, ces 7 entreprises américaines dépensent un total. Total, c'est en fait le centenaire de la création de Total. C'est quand même assez incroyable. Et là-dedans, vous avez Alphabet. Alphabet, c'est 32 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2023. 32 milliards de dollars, c'est la capitalisation de Saint-Gobain oui. ou de STMicro. Donc ça illustre franchement la dynamique incroyable qui se passe aux États-Unis en termes d'investissement. Et qui dit investissement, dit croissance future, dit optimisation des marges, dit digitalisation. Et vraiment, je pense que voilà, ce chiffre parle de lui-même. Oui. Et les États-Unis font la course en tête.
Les 7 magnifiques commencent à publier cette semaine. On aura à suivre alors Tesla, demain soir après la clôture. Tesla qui souffre en bourse hein, quand même et qui nous annonce de nouvelles baisses de prix de ses véhicules. Bon, Tesla, également Microsoft, Alphabet cette semaine. Et Meta, là pour le coup, c'est le grand retour de Meta. Est-ce que vous vous dites néanmoins qu'on est boursièrement parlant, je ne parle pas industriellement parlant ni technologiquement parlant, mais boursièrement parlant, au bout d'une histoire, c'est un peu beaucoup dire, mais voilà, l'incroyable hausse, l'incroyable épopée boursière de cette thématique va peu à peu s'essouffler. On a vu Nvidia, depuis un mois, perdre quand même 400 milliards de dollars de capitalisation. La thématique IA entraîne des hausses un peu moins spectaculaires désormais. Est-ce que là, vous dites que ouais, la thématique s'essouffle et va continuer de s'essouffler ?
En tout cas, les attentes sont très élevées sur les dynamiques de croissance, donc ça laisse très peu de place à de la déception. Et puis, on commence à avoir pas mal d'illustrations. Tesla qui a beaucoup plus de mal à vendre ses voitures qui est obligé de baisser ses prix. On voit Apple dans un environnement un petit peu récessif. Les gens gardent plus longtemps leur téléphone, donc le renouvellent moins. Donc, il peut y avoir des remises en question. Et sur l'IA, on voit finalement des réflexions de se disant, mais est-ce que l'IA va pas mettre plus de temps à s'implémenter au sein des entreprises, etc. Et ça va peut-être prendre plus longtemps que prévu. Donc voilà, la croissance attendue sur les 7 magnifiques hors Tesla et Apple, c'est 65% de croissance des bénéfices par action sur le premier trimestre.
Ah oui, quand même.
Donc voilà, donc vu les parcours, une sanction, ça pourra faire mal sur les cours.
Beaucoup de publications dans l'univers de la tech. Donc cette semaine aux États-Unis, Xavier, vous vous êtes montré généreux en data. À vous, Valentine, d'opérer. Votre chiffre, moins 28%.
En effet, moins 28%, c'est la baisse dans la demande de crédit de la part des entreprises dans la zone euro. Ça, c'est ce que nous suggère la dernière enquête de la BCE. Alors, comme on l'évoquait, l'impact des taux sur l'activité de crédit en zone euro est beaucoup plus fort qu'aux États-Unis. En zone euro, on a un impact de ce resserrement monétaire sur l'économie qui se traduit par une chute dans la demande de crédit de la part des entreprises, de la part des ménages. Il faut garder aussi à l'esprit une statistique forte, c'est qu'aux États-Unis, il y a 80% du financement de l'économie qui passe par les marchés. Donc l'économie américaine a pleinement bénéficié du pivot dovish de la Fed. En Europe, c'est l'opposé. On a 80% de l'économie qui se finance via les banques. Donc, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'aux États-Unis, l'économie a bénéficié, avant même que la Fed ne baisse ses taux, des anticipations de baisse de taux. C'est quand même très drôle. Et le fait que la Fed ait anticipé des baisses de taux l'année dernière va faire que la Fed ne pourra peut-être pas baisser ses taux cette année. Alors qu'en Europe, pour que l'économie puisse bénéficier des baisses de taux, il faut que la BCE baisse de façon effective ses taux, parce que le financement de l'économie européenne passe par les banques. Et là, on voit baisse d'une toujours la demande de crédit de la part des entreprises est toujours en train de baisser. Et ça inquiète, et ça devrait bien inquiéter les membres de la BCE.
En train de baisser de 28% au premier trimestre, c'est ça, les demandes de crédit des entreprises en Europe.
Exactement, en net. Ouh,
effectivement.
Merci. Reste très fort.
Oui, bien sûr. La data de Valentine Hennouz à Mundi Institute. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans cette data room. Valentine Hennouz, Xavier Buren, OTA Capital. Bon retour. Dans un instant, c'est la clôture. On va la vivre en direct. On appellera Aude Kersulec depuis la Tour Euronext. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Et cet article consacré à une valeur, une de plus, qui pourrait quitter la cote, Aurès, qui était en difficulté. Eh bien, Aurès pourrait bien ne plus être cotée en bourse. L'article est disponible. N'hésitez pas, bien sûr, à le consulter. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture à Euronext. BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Aude Kersulec nous accompagne, effectivement, première clôture de la semaine. Depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Bonsoir, rebonsoir Aude, comment termine-t-on aujourd'hui ?
Bien, en hausse pour le CAC, plus 0,2% à 8040 points. C'est un beau rebond des places européennes en ce lundi, mais un rebond tout de même pas forcément homogène, parce que par exemple, on a un indice qui surnageait et surperformait les autres, c'est Londres, l'indice londonien qui est monté de 1,6% à 8025 points et à une vingtaine de points de son record historique. Donc une très belle forme. On a l'indice de Madrid aussi qui prenait 1,4%, et finalement la performance du DAX plus 0,7%, ou même de Paris plus 0,2%, donc paraît assez modéré. Alors à l'intérieur de notre CAC 40, on a la tech qui rebondissait, notamment Téléperformance qui prend 3%, et Edenred aussi après la large chute de vendredi, donc sur des informations de l'entreprise comme quoi cette étape de la mise en examen de 4 anciens dirigeants en Italie était attendue. Ça a contribué à rassurer les investisseurs sur ce titre, plus 2,7% à 44,89 €. En revanche, du côté des baisses, on a des prises de bénéfices chez L'Oréal. On était monté 5% vendredi, là on perd 0,9% à 441 €. Et puis Schneider, une baisse nourrie quand même pour le titre de l'électricien qui serait toujours en pourparlers pour acquérir une société de logiciels, moins 1,8% à 204 €. Et puis sur le SBF, le grand gagnant du jour, c'est Worldline qui a remanié son conseil d'administration, faisant rentrer des administrateurs indépendants et un administrateur du Crédit Agricole. On prend 8% pour la valeur à 10,26 € devant Solution 30 ou encore Elior Group. Voilà donc pour le CAC 40, une première journée de hausse, des échanges tout de même assez limités pour un lundi. On est en dessous de 3 milliards d'euros échangés, et le CAC 40 qui s'arrête à 8040 points ce soir.
Effectivement. Et Romain Dobry qui est avec nous depuis Bourse Direct. Bonsoir Romain, première clôture de la semaine. Quel signal le marché envoie-t-il pour la suite ?
Il y a un petit peu de mieux. Il faut rappeler qu'en fin de semaine dernière, et sur fond d'échéance technique des marchés dérivés, les indices américains ont atteint des niveaux de support et des cibles. Sur le S&P 500, c'était 4957 points. Il faudrait déborder 5031 pour activer une dynamique haussière. Sur le Nasdaq, c'est 16970. Sur l'Eurostock, c'est la zone 4880, 4915 qui ont été atteints, qui étaient des niveaux de retracement assez idéaux et des mouvements qui n'avaient pas été très construits au-dessus. Donc pour l'instant, un petit peu de mieux, un retracement qui était légitime. un petit rebond qui se met en place au début et à l'entame d'une semaine que vous avez indiqué, qui va être très très chargée, qui se terminera en plus des publications par des chiffres d'inflation, l'indice PCE Core vendredi, donc ça va être majeur. Des opérateurs qui sont plus prudents, qui se sont couverts et un intérêt à reconstruire sur les marchés d'AEV. C'est vraiment la saison des publications qui va donner des éléments. Pour l'instant, sur les indices, on n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de momentum. Il y a vraiment à reconstruire. Mais sur les valeurs individuellement, il y a encore des petites choses à faire, même si le mouvement a été un peu bloqué récemment.
Ben vous nous direz, tiens, vous allez rester avec nous jusqu'à 18h, vous nous direz sur quelle valeur vous voyez... Oula, on l'a refait. Sur quelle valeur vous voyez du potentiel. Romain Dobry, depuis Bourse Direct avec nous, et vous tous qui nous suivez, qui nous envoyez d'ailleurs régulièrement vos questions sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn. Ben restez avec nous, on va tout de suite vous répondre. Eric Lewin également se joint à nous, on va tout de suite refaire la séance. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Eric Lewin est rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir Eric.
Bonsoir mon cher Guillaume, vous êtes en pleine forme, vous êtes bronzé, plus bronzé que moi d'ailleurs.
Oui, mais c'est...
Je suis assez énervé.
Va falloir retourner à Dubaï. Quoique, Dubaï, il y a des orages incroyables. Il y a eu des orages incroyables. Et puis on a découvert qu'il n'y avait pas de système d'égout. Donc,
Vous savez qu'ils font pleuvoir les nuages, en fait, c'est un phénomène un peu technique. C'est-à-dire, quand il ne pleut pas, quand il y a trop de sécheresse, ils envoient des espèces d'ondes, ce qui fait pleuvoir sur Dubaï. Et parfois, ils n'arrivent pas à juguler le système. Donc c'est pour ça qu'il y a des inondations.
Enfin, bon, on précise à ceux qui prennent au premier degré, c'est du second degré, hein, bien sûr. C'est une plaisanterie. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est pas du... Ils n'ont pas provoqué cet orage, Eric.
Mais d'accord, mais en général, ils peuvent provoquer des orages. Souvent, ils font ça. Non, c'est pas du second degré.
Ah bah d'accord, mais l'inondation, elle n'a pas été...
Cette inondation-là, non, mais parfois, je vous assure qu'il y a des choses bizarres qui se passent.
Bon. Eric, vous nous accompagnez, effectivement, je vois Romain sourire à distance, vous nous accompagnez pour mesurer le potentiel des marchés. On démarre bien cette semaine, grosse semaine, 21 publications sur le CAC 40. Alors, on interroge là-dessus nos auditeurs et téléspectateurs sur nos réseaux sociaux, notre Félix BFM Bourse. On vous demande, à vous tous qui nous suivez, si 21 publications d'entreprise sur le CAC, rien que cette semaine, c'est pas un peu beaucoup. Est-ce que vous arriverez à tout suivre? Oui ou non? C'est la question qu'on vous pose. Vous arriverez à tout suivre, Eric, cette
semaine ? Écoutez, c'est quand même des chiffres d'affaires trimestriels, donc ça n'a pas la même portée que des semestriels où c'est beaucoup plus compliqué d'interpréter les tendances, de voir les free cash flow, de voir tout ce qui touche la situation financière. Donc c'est surtout du chiffre d'affaires. C'est vrai que la semaine va être importante, mais elle va être aussi très importante aux États-Unis avec notamment les sept magnifiques, notamment Tesla, dont on se demande jusqu'où le titre pourrait baisser, parce que je regardais tout à l'heure Tesla avant de préparer cette émission. C'est quand même moins 40% depuis le début de l'année, avec une problématique de baisse des volumes, de baisse de la rentabilité. Ça sera intéressant aussi d'un point de vue économique. Il y a un PIB américain qui va sortir. Alors qu'on s'interroge sur le nombre de baisses des taux qu'il pourrait y avoir cette année, il y a certains experts dans la presse américaine qui disent que peut-être cette année, il n'y aura pas de baisse de taux du tout, du tout. Il y aura, comme le soulignait Romain, un core inflation. Et puis, il y aura vendredi, Fitch et Moody's, je crois, sur la dette de la France. Alors que je regardais ça, ce qui est assez intéressant, c'est vrai que ça monte un peu sur le 10 ans français. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on s'inquiète beaucoup plus que ce qu'il ne faut sur cette dette française, parce qu'il y a une adjudication. C'était il y a 8 jours du NOAT, échéance novembre 2033, 3,5% de taux de rendement. Et il y a eu 6 milliards offerts et 13,8 milliards de demandés, ce qui me fait dire que même si on a des problématiques de dette et de déficit budgétaire, je dis pas qu'il faut pas réduire la dette et qu'il faut pas réduire le déficit, je rentre pas dans cette problématique, mais on a le sentiment que les investisseurs sont un peu coincés. C'est-à-dire que quand vous êtes une grosse caisse de retraite aux États-Unis, vous achetez quoi? Vous achetez de l'Allemagne, vous achetez de la France, quel que soit l'endettement, parce que vous dites que c'est sécure. Et quand on regarde les agences de notation...
Et si vous achetez les États-Unis sont beaucoup plus en déficit encore que nous.
Donc... Oui, mais les États-Unis, la problématique des États-Unis, c'est que 82% de la dette américaine est détenue par des résidents américains. Donc on n'a pas ce problème. Je crois qu'en France c'est 48%, en Allemagne c'est 57%. Mais vous savez, les agences de notation, ce qu'ils regardent, c'est non seulement l'endettement, mais également la stabilité politique, la croissance économique. Il y a tout un ensemble de paramètres qui fait que moi, j'ai pas le sentiment quand même que même s'ils dégradent la dette, il puisse y avoir un 10 ans français qui passe de 3 à 4% la semaine prochaine.
En tout cas, il est passé à 3%. Ça y est, les 3%, on l'a renoué avec les 3%, c'était cet après-midi.
Ah oui, mais quand vous avez
C'est simple, en Europe, le seul taux obligataire qui monte, c'est celui de la France. Les autres dettes souveraines.
C'est sûr, mais ça reste quand même maîtrisé quand vous voyez qu'on a une dette publique qui représente 110% du PIB et un déficit budgétaire qui est entre 5 et 6% du PIB.
Publication, 21 entreprises du CAC vont publier cette semaine. Je vous demandais au début si vous arriverez à tout suivre. Vous m'avez répondu non.
Oui, franchement,
21 entreprises, vous n'arriverez pas à tout suivre.
C'est du côté des
détail.
US que ça m'intéresse un peu plus cette semaine, dans la mesure où on a.
Donc vous arriverez à suivre les 21 entreprises du CAC, plus les entreprises US qui vont publier, enfin beaucoup vont publier cette semaine. Vous arriverez à tout suivre.
Vous pourrez m'interroger la semaine prochaine, puisque je serai là, je ne fais pas le pont la semaine prochaine, vous pourrez m'interroger. Non, mais disons que c'est, encore une fois, mon cher Guillaume, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas de la rentabilité. Oui. Maintenant, je regarderai surtout aux États-Unis. Je vous rappelle quand même qu'on attend une hausse des résultats du S&P de plus à peu près 30%, mais hors les 7 magnifiques. On est à moins 3,5. Donc ça sera très intéressant de voir ça. Et en France, il y a, c'est vrai, 21 publications, mais il y en a qui sont quand même plus intéressantes que d'autres.
Sur lesquelles vous êtes le plus optimiste sur les publications à venir?
Celle qui paraît la plus facile à décrypter, c'est Hermès. Hermès a un pricing power encore cette année. Ils peuvent augmenter les prix entre 8 et 9%. Hermès, on attend une croissance organique de l'ordre de 10%. Donc, je suis assez à l'aise avec Hermès, même si quand même, ça se paye 55 fois les bénéfices. Alors, vous allez me dire, oui, mais la qualité se paye en bourse, etc., etc. Jusqu'où ira Hermès? Mais c'est celle sur laquelle je suis plus à l'aise. Et mon interrogation, c'est ce fameux dossier, je crois qu'Aude Kersulec en parlait à 17h30 ou à 17h. Je fais peut-être un distinguo qui n'est pas le bon. Sur Kering, dans la mesure où il y a un mois, il y avait eu un vrai sales warning, ils avaient dit qu'ils feraient moins 10% sur le chiffre d'affaires et moins 20% sur la Chine. Kering, il y a un dossier qui ne prend pas. Ça fait moins 40% en un an. Mmh. Ça vaut 14 fois les bénéfices et on a le sentiment de se demander à quand va s'arrêter la Gucci dépendance? Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, pour redonner du lustre à l'action, de se vendre certaines activités? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vendre, par exemple, Saint-Laurent, Balenciaga à d'autres, ou Bottega Veneta? Et en tout cas, il y a une vraie problématique autour de ce dossier Kering qui n'imprime plus. Et puis, dernière chose, je regarderai aussi beaucoup Accor, parce que Accor, autant Alstom, depuis sa sortie du CAC 40, gagne 18%, autant Accor, depuis son entrée au CAC 40, perd 7%. Mais c'est souvent comme ça.
c'est terrible,
mais bon. Et donc, je regardais quand même le REFPAR, ce qu'on appelle le REFPAR sur Accor. Accor qui monte en permanence en gamme, avec notamment le Sofitel, avec sa marque Fairmont, avec Raffles. Donc, c'est les trois publications que je vais regarder de près.
Raffles, on est à Singapour.
On est à Singapour. Ouais, c'est ouais. Le fameux.
Ah non, on voit les connaisseurs.
C'est le fameux mythique hôtel de Singapour qui a été refait. Oui. Qui est vraiment très beau, mais enfin, c'est pas. Je fais pas une publication pour les guides touristiques, donc c'est les trois publications que je vais suivre. Sur le reste, peut-être Renault qui a quand même une performance exceptionnelle depuis l'année et qui n'a pas très cher. Sur Renault, ce qui serait intéressant de savoir,
si on a vu Renault, c'est le carton de l'année, c'est la plus forte hausse du CAC depuis
le début
de l'année. Est-ce qu'avec la publication, le titre arrivera encore?
C'est que la problématique dans l'électrique, j'ai envie d'entendre leur déclaration sur l'électrique parce qu'on a vu la semaine dernière, c'est sorti. Les ventes dans l'électrique, ça s'essouffle un peu partout en Europe. Donc, quelle est leur stratégie par rapport à ça? Voilà donc les quatre publications que je suivrai de près avec aux États-Unis, et j'insiste là-dessus, il faut regarder de très, 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 très près Tesla. On a le sentiment que c'est vraiment une descente aux enfers, que jour après jour, le titre ne cesse de baisser. Il y a beaucoup d'analystes qui n'y croient plus du tout. Est-ce que ça va pas être le moment qu'il va y avoir un espèce de rachat de short sur ce titre si la publication est plutôt bonne?
Tesla perd encore 4% aujourd'hui après l'annonce de nouvelles baisses de tarifs.
Moins 40% depuis le début de l'année.
Sur l'un de ces modèles, en France, pour le coup, la baisse de tarifs de
3 000 euros. Mais en Allemagne aussi, en Chine, partout, on est dans une logique déflationniste pour Tesla.
Et depuis le début de l'année, le titre perd effectivement plus de 40%. Alstom, vous le disiez, Alstom, depuis qu'il a quitté le CAC, gagne 18% et encore 2% de hausse aujourd'hui après l'annonce d'une cession en Amérique du Nord. Est-ce qu'il faut renforcer encore Alstom?
Écoutez, ça commence à sentir bon pour Alstom. Bon, c'est un titre, je vais pas revenir là-dessus, ça perd 65% en 3 ans, je vais pas revenir sur la problématique. La problématique, c'est quoi? Il faut refinancer la dette, des contrats avec Bombardier qui avaient été signés, mais où ils perdaient de l'argent. Et là, il semble que ça va mieux. Alors, sur la cession, c'est de la signalisation aux États-Unis. Oui. Je crois qu'on ressort sur 730 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien valorisé. Je crois que ça vaut 15 fois le résultat d'exploitation. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce dossier, c'est que la capitalisation est beaucoup remontée sur Alstom. On est au-dessus des 5 milliards. Vous savez que la principale incertitude, c'était il faut céder des actifs, disons 2 milliards.
La trésorerie,
surtout,
quoi.
Y a-t-il y avoir une augmentation de capital? Et donc maintenant, on a le sentiment que si augmentation de capital, ça sera plutôt de 500 millions d'euros. Donc, versus 5 milliards de capi, ça veut dire que ça sera une mini-dilution quand même pour les actionnaires.
Imaginons, on est en juillet, c'est l'Assemblée Générale d'Alstom. Elle aura lieu qu'en juillet, l'Assemblée Générale. Quelle question posez-vous au management?
Augmentation de capital.
Okay.
Vous avez besoin de combien? Et surtout, dernière chose, vous aviez annoncé l'an dernier un free cash flow positif. Finalement, il sera négatif. À quand un vrai free cash flow positif?
Romain, techniquement, Alstom, est-ce que vous sentez qu'après 18% de hausse, depuis sa sortie du CAC 40, le titre en a encore beaucoup sous le pied pour poursuivre son rebond? Il revient de très loin, ce titre.
À moyen long terme probablement, à court terme peut-être une pause dans une zone majeure qu'elle vient d'atteindre, qui est située entre 15,40 et 16,11. Il faudrait vraiment s'installer au-delà de ces niveaux pour poursuivre, et dans ce cas-là la cible suivante c'est 19,40, qui est un très gros niveau historique pour Alstom. Si en revanche, et là les niveaux d'alerte sont plus loin, on repassait sous 14,26, là le risque serait un peu plus marqué d'invalidation de la sortie haussière et de reprise d'une tendance baissière. Donc on a probablement à court terme une petite pause, d'ailleurs une bougie d'indécision pour ce début de semaine, avec un petit corps et des grandes mèches autour, donc ça traduit bien l'indécision, mais un parcours haussier qui peut-être nécessite une pause à court terme.
Un petit corps et des grandes mèches autour. Oui, c'est ça l'analyse technique. Et une question d'auditeur qui nous parvient à l'instant, alors que le CAC 40, on le rappelle, a un peu progressé ce soir en clôture. Il s'appelle Romain, il nous a écrit sur X tout à l'heure, sur le réseau X BFM Bourse. Que penser du titre GTT qui annonce une forte hausse de 80% de son chiffre d'affaires, mais dont le cours de bourse ne cesse de baisser? GTT, Eric.
Enfin, attendez, le cours de bourse ne cesse de baisser. Il avait connu une croissance stratosphérique. Il vient de perdre 10% en ligne droite. Ce qui est intéressant dans ce dossier GTT, c'est qu'il y avait Engie au capital qui est complètement sorti. Donc l'hypothèque que Engie va continuer à vendre n'est plus là. GTT, c'est une société qui s'occupe notamment, qui est dans le transport de gaz liquéfié. Ce qui est très intéressant sur ce dossier, c'est que la rentabilité opérationnelle est au-dessus de 53%. Je crois que c'est le groupe le plus rentable de la place de Paris. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette baisse? Pas du tout. Est-ce qu'il faut commencer à acheter? Je ne sais pas ce qu'en pense mon ami Robin Daubry. Robin. C'est peut-être lui d'ailleurs qui a posé la question pour se mettre en valeur parce qu'il en est capable. Oh. Mais est-ce que,
ce que j'ai non, même prénom, Romain.
Oui, j'ai un faux compte Twitter.
Non, blague à part, je pense que si le titre va sous 130 €, ça me paraît un excellent call ce GTT. Ça vaut 14 fois les bénéfices, donc on peut y aller.
Vous savez, je reviens de Grèce, hein. J'ai vu la Pythie là-bas. La Pythie, notre oracle romain d'un point de vue technique sur ce titre GTT, c'est quoi le potentiel à vos yeux, là, les prochains seuils qu'il va falloir suivre pour les investisseurs?
Mais on a rompu un seuil technique, effectivement une consolidation, mais après un très beau parcours haussier. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines, enfin depuis le 26 février, que GTT était bloqué entre 135,70 et 143,30. Le titre rompt 135,70 aux clôtures. Aujourd'hui, ça donne comme cible un support majeur qui est situé à... Pardon, j'ai un petit doute. Voilà, 128, je vais être précis, 128,30. La zone 128,30, 130 de 20 semble effectivement opportune pour reprendre une position sur un titre qui a un parcours nettement haussier. Ce serait invalidé sous 126,20, mais ça n'est qu'une consolidation dans une tendance haussière de long terme.
Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Et Christian qui nous appelle, qui joint à nous, Christian Fontaine depuis Le Revenu. Bonsoir Christian.
Bonsoir à tous.
On est ravis que vous vous joigniez à nous, Christian, pour vous aussi répondre à nos auditeurs. Auditrice et téléspectateur, téléspectatrice, Marie nous interroge. Que me conseillez-vous pour mon compte-titre? Elle estime, Marie, que la fiscalité est trop pénalisante et elle envisage de fermer son compte-titre. Est-ce qu'on a des solutions pour elle, Christian?
Alors, bien sûr, surtout, Marie, ne fermez pas votre compte-titre. Par contre, vous avez raison, diversifiez vos enveloppes fiscales. Alors, c'est vrai, Marie, que la fiscalité au sein du compte-titre pique un tout petit peu, puisque elle se monte à 30% en tenant compte des prélèvements sociaux et des prélèvements fiscaux. Et on va tomber en période de versement des dividendes et c'est 30% qui vont être directement prélevés à la source sur vos dividendes. Pour les plus-values réalisées par Marie cette année, les plus-values ne seront taxées entre guillemets que l'année prochaine. Alors les solutions, vous en parlez souvent sur votre antenne, Guillaume, et au revenu aussi, c'est bien sûr investir en bourse via des enveloppes à fiscalité privilégiées, PEA, assurance vie, plan d'épargne entreprise, ce qui permet de ne payer que entre guillemets 17,2% de prélèvements sociaux sur ces gains. Donc, vous faites quand même une économie de 12,8%. Et surtout, vous ne payez vos impôts pas quand vous encaissez votre gain, mais quand vous retirez l'argent de votre enveloppe fiscale. Donc, pendant tout ce temps-là, l'argent que vous devez aux organismes sociaux reste investi et font des petits qui tombent dans votre besace.
Et à l'instant, Eric réagit. Et vous me demandiez, Eric, si on peut transférer ces actions d'un compte-titre ordinaire vers un PEA ou un contrat d'assurance-vie. Question d'Eric Lewin.
Ah oui, non, moi ça m'intéresse parce que il me fait penser à Maître Capello, vous savez, Christian Fontaine. En fait, c'est plus le notaire de province, c'est vraiment Maître Capello.
Alors, la réponse, en fait, malheureusement, c'est non, en fait. Et c'est là le conseil à Marie et à Eric Lewin, en fait, c'est d'y aller par étapes. Et la première étape, ça consisterait à ne plus alimenter son compte-titre. La deuxième étape, c'est qu'à chaque fois qu'elle encaisse des gains, par exemple, Marie, votre auditrice, elle pourrait non pas les dividendes qu'elle va encaisser ce printemps, non pas les réinvestir dans son compte-titre, mais les réinvestir dans son PEA. Et la troisième étape, c'est de spécialiser ses enveloppes fiscales, par exemple le PEA pour les actions européennes, et par exemple le compte-titre ou l'assurance vie pour les actions internationales.
Merci Christian Fontaine en direct avec nous, directeur de la rédaction délégué du magazine Le Revenu, pour répondre chaque lundi aux questions que vous nous envoyez. Eric Lewin aussi nous accompagne.
Merci beaucoup.
Les publications
Agora. C'est un plaisir.
Partagez Eric, merci beaucoup de nous accompagner aussi fidèlement chaque lundi. On salue Romain Daubry également avec nous régulièrement depuis Bourse Direct. Bonne soirée les gars. Non, je ne sais pas pour vous.
Non, ça fait un peu les tontons flingueurs.
Mais... Oui, on est d'accord. Bon, bref. Bonne soirée à tous. Dans un instant, vous retrouvez Thomas Asportas, Good Evening Business, jusqu'à 20h. Le CAC 40 en clôture, on vous le rappelle, a gagné 0,2%, 8040 points. Bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.